une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 8 avril 1973, Pablo Picasso s'éteint à Mougins à l'âge de 91 ans. L'enfant, né le 25 octobre 1881 à Malaga, en Andalousie, au sud-est de l'Espagne, a voulu imiter son père, décorateur, qui arrêta de peindre lorsqu'il prit conscience du talent de son fils. Avant même de savoir marcher, le petit Pablo s'agrippe à son crayon. Mais il faut se former. Il part à 14 ans à la découverte de la peinture espagnole à travers tout le pays avant de réussir brillamment le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Barcelone, ville alors en pleine effervescence. C'est le temps des premiers ateliers et de la première exposition avec des œuvres au style encore académique. Le souvenir du jeune peintre perdure dans le musée qui lui est consacré au cœur du quartier gothique dans la Calle Moncada. Mais Paris, passage obligé de tout artiste à la belle époque, l'attend. En 1900, Montmartre est un vivier d'artistes aux têtes pleines d'idées, mais aux poches vides. À 20 ans, Picasso y voit la vie en bleu, de la couleur dont il peint des tableaux de cette première période. La légende dit que l'on doit l'omniprésence de ces tons bleutés au prix imbattable d'un stock de tubes. Il hante alors les musées, les cabarets, les cirques et bien sûr les cafés tout en partageant une chambre avec son ami, le poète Max Jacob, à peine plus argenté. En 1904, avec des amis peintres, il installe son atelier dans un vieux bâtiment délabré, le bateau Lavoir. Un jour, une jeune fille vient s'y abriter de l'orage. Il s'agit de Fernande Olivier. Elle sera son premier amour et son premier modèle. Mais du coup, les toiles deviennent roses. Les amateurs commencent à apprécier son style. La fin de la vie de bohème n'est pas loin. C'est une promenade au musée de l'Homme qui a changé le cours de l'histoire de l'art. En 1907, Picasso y découvre l'art nègre, origine d'Afrique subsaharienne, avec ses formes géométriques simples qu'il met aussitôt en application dans Les Demoiselles d'Avignon. C'est le tableau du scandale. En quelques coups de pinceau, il désarticule les visages devenus des masques, brise les corps nus et met à bas les règles de la peinture héritées de la Renaissance. Qu'importent les cris d'Henri Matisse. Avec Georges Braque, Picasso se lance dans des compositions où les formes semblent réduites à des cubes. Le cubisme est né. Ce nouveau mouvement, présenté comme le point de départ de l'art moderne, ne s'embarrasse plus de l'idée de vraisemblance qui a fait les beaux jours de la peinture classique. Allant encore plus loin que son maître Cézanne, le peintre préfère adopter les lignes fortes des primitifs, en particulier espagnols et africains. Picasso vient de donner un formidable coup de pied dans la fourmilière de l'art. Le public, même s'il comprend mal cette nouvelle tendance, achète. Picasso devient riche et quitte le bateau Lavoir. Dans le midi où il s'installe, il développe aussi la technique des papiers collés. L'arrivée de la Grande Guerre sonne le début des malheurs. Les amis de Picasso, Braque, Apollinaire, Derain, partent au front tandis qu'Eva, sa compagne, meurt de tuberculose. Il observe d'un œil les agitations du monde de l'art, bousculées par le dadaïsme puis le surréalisme. Après être revenu quelque temps au style figuratif, il se laisse entraîner par la lame de fond déclenchée par André Breton et entreprendre créer des œuvres à partir de vieux clous et de serpillères. Avec ses assemblages, il se fait sculpteur pour donner vie par exemple à une chèvre à partir d'un panier. Les trois danseurs ou encore le Minotaure, marque un tournant dans son œuvre qui s'affirme par une violence et une tension intérieure pouvant aller jusqu'à la dislocation totale des formes, comme dans l'Acrobate en 1930. Dès lors, chacun de ses tableaux devient l'expression passionnée de ses états d'âme, de ses interrogations existentielles sur la naissance et la mort, l'amour, le sexe, la violence et la pitié. Picasso atteint sa pleine maturité.
Il était un homme oiseau qui cueillit le monde rond, l'ouvrit de ses doigts pipeaux, l'enfouit dans son œil citron. Puis déshabilla les dieux, les fit danser dans les bois, les croqua de ses dents bleues, les énivra de hautbois. Picasso, Colombo, Laurier, Guernica, la mort aux cornes, pour que dans un monde sans borne La nuit ne vienne plus jamais. La nuit ne vienne plus jamais.
En juillet 1936, la guerre civile commence à déchirer l'Espagne. Picasso prend position contre le général Franco par attachement viscéral à la liberté. Après avoir multiplié les dons aux républicains espagnols, il accepte de s'engager de façon plus symbolique en se lançant dans la réalisation d'une toile pour le pavillon espagnol de la future exposition universelle. Le sujet de cette peinture s'impose de lui-même. Le 26 avril 1937, l'aviation allemande a rasé la ville basque de Guernica, faisant 2000 victimes civiles. L'horreur explose dans la toile. Formes déchirées, cris, larmes, corps désarticulés, tons gris, noirs, traversés d'éclairs jaunes et blancs. L'absence de couleur évoque la mort des victimes du bombardement, mais aussi celle de la civilisation. Un peu plus de mois après, l'œuvre est achevée et prête à devenir le symbole universel de la dénonciation de la barbarie. Pendant la débâcle, Picasso s'enferme chez lui pour travailler à cette peinture qualifiée de dégénérée par le régime nazi qui lui interdit d'exposer, mais le ménage en raison de sa célébrité. Il continue de créer, comme cette célèbre tête de taureau née de l'assemblage d'une selle et d'un guidon trouvé dans la rue. À la Libération, il est fêté par ses amis comme par les anonymes qui voient en lui un symbole de ténacité contre l'adversité. Peu de temps après la fin de la guerre, Picasso s'inscrit au Parti communiste français qui jouit du prestige né de ses actions de résistance. S'associant à son idéal de progrès et de bonheur de l'homme, il y rejoint nombre d'intellectuels dont ses amis Éluard et Aragon, mais n'hésite jamais à montrer sa différence. En 1949, pour le Congrès mondial de la paix, il offre à l'organisation un dessin de colombe qui devient vite célèbre. Paloma, colombe en espagnol. C'est aussi le prénom de la fille qu'il vient d'avoir avec sa nouvelle compagne, Françoise Gillot, déjà mère de son petit Claude. Ensemble, ils se sont installés au soleil de Valoris et de ses céramiques. Mais c'est à Notre-Dame de Vie, à côté de Mougins, que celui que l'on célèbre comme l'artiste du siècle meurt le 8 avril 1973 à 94 ans. Il laisse derrière lui pas moins de 30 000 œuvres. Inventeur du cubisme, mais aussi citoyen en révolte, Pablo Picasso a profondément modifié notre vision de la réalité. À la même époque, Albert Einstein avait lui aussi une vision décalée de notre réalité physique. Mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire.